Maintenant, les choses en ordre. Et vous l'avez verset. Prenez le verset 5. À la fin du verset 5, vous avez Ha Vayomar et Aaron dit Ha Glashem Mahar. Il y aura une fête pour Hachem demain. Demain, dit le Midrash, quand Moïse reviendra. C'est clair jusque-là ? Alors je reviens un peu en arrière, prenez déjà maintenant au verset 4. Vaïkar Megadam, et il prit cet or de leurs mains. Le Midrash insiste en disant que seuls les hommes ont donné les bijoux, les femmes n'ont pas voulu donner les leurs. Pas parce qu'elles voulaient garder leurs bijoux, parce qu'elles ne voulaient pas participer à l'idolâtrie. C'est un Midrash féministe. Et ça sera compté pour le mérite des femmes de cette génération, c'est qu'elles n'ont pas voulu participer à cette entreprise, c'est à inscrire au thème des machines Sotkaniot. Il faudrait vraiment être mal intentionné pour expliquer que c'était pour garder leur bijoux. Donc, au verset 4, et Aaron prit cet or de leurs mains, Bayatsar Oto Bahere, et il le forma dans le creuset, Bayasinu Aigel Masecha, et il en fit un Aigel. C'est un, littéralement, c'est un veau, okay, mais c'est le petit du chauve. Masecha, c'est un objet fait fondu. Il n'est pas en fonte, la fonte étant de l'acier, du fer mélangé au charbon. Ce n'est pas de la fonte, mais un objet, comment dit-on en français, il y a un mot pour ça, hein? Coulé, très bien. Voyons-vous, et ils dirent, alors suivez maintenant ce verset, et ils dirent, ceux qui ont demandé que l'on fasse le veau d'or, c'est-à-dire une idole qui représenterait symboliquement Moïse qui est par le descendu de la montagne, ils dirent, Elé Elohecha Israël, voici tes dieux Israël, Asher Elohecha Melech Mitzrayim, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. C'est-à-dire, voici la symbolisation du génie d'Israël qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le génie d'Israël n'étant évidemment pas Dieu lui-même, ce génie d'Israël qu'ils ont perçu dans le génie de Moïse. C'est clair jusque-là ? Une minute, attends, je vous déterminer. En tout cas, ce qu'on apprend tout de suite de ce verset, c'est que ce n'est pas Israël qui a fait cette faute, puisque c'est cette partie du peuple qui s'adresse à Israël, lui disant, voici Israël, tes dieux. C'est bien clair ? Si vous comprenez bien le phrasé du verset, ceux qui parlent à Israël ne sont pas d'Israël, ne sont pas les tribus d'Israël. C'est comme si, en actualisant totalement la formulation de ce discours, en la laïcisant complètement, eh bien, nous aurions affaire à cette espèce de nationalisme chauviniste, de l'identité israélienne, israélite, si vous voulez, coupée complètement de la Torah, et qui dirait, c'est le génie d'Israël qui est le libérateur d'Israël. Pas du tout le Dieu d'Israël. C'est clair ce que je veux dire ? C'est-à-dire repousser toute transcendance absolue, et au contraire se rabattre sur une immanence totale. Et avec quoi comme symbole ? Eh bien, finalement, un Magen David, par exemple. Mais ça reviendrait au même. Vous voyez, ce que j'ai pas dit la menorah c'est beaucoup plus caché, mais Hanouka. Mais vous voyez la l'huile pour la menorah. Vous voyez donc la relation de ces différents thèmes. C'est d'abord ce que je veux mettre en évidence. Mais il y a plus que cela dans le verse. C'est l'expression qui nous a été employée deux fois pour dire la sortie d'Égypte. Et c'est une expression absolument inhabituelle. Alors je vais vous donner la règle. Chaque fois qu'il s'agit du Erev Rav, l'expression qui est employée, c'est l'expression de la Aliyah, la Alot, Meret Mitzrayim, la montée d'Égypte. Quand il s'agit d'Israël, l'expression c'est Yetziah, la sortie d'Égypte. Et vous verrez qu'il n'y a pas d'exception dans l'ensemble du texte, dans tout le Chumash. Okay ? Vous trouverez chez les prophètes des versets qui emploient le terme de Aliyah pour Israël, apparemment c'est une exception, ce n'est pas du tout, c'est quand, après la sortie d'Égypte, Israël retombe dans l'exil, il retombe dans la situation du Erev, et pour lui, revenir en Israël, c'est une Aliyah. Mais, c'est vrai ce que je dis là ? Vous voyez, une expression radicalement différente. Ça veut dire que quand c'est Israël qui sort d'Égypte, le texte dit Yetziat Mitzrayim, Asher Otseta Meret Mitzrayim. Lorsque c'est la Erev, c'est Asher Elita Meret Mitzrayim. Voilà une autre confirmation du fait que l'initiative de cette faute n'est pas prise par Israël lui-même, mais par le Erev que Moïse a intégré à Israël. J'anticipe un peu rapidement pour expliquer pourquoi, à travers le temps, finalement, les rabbins font assumer à tout Israël cette faute-là. Il y a quand même une part de responsabilité de la part de l'Israël d'Israël par rapport à l'influence du Révrav qui s'intègre à Israël et qui, lui, a pris l'initiative du Vaudor, c'est le fait que l'Israël d'Israël n'a pas pu empêcher. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a une espèce de, en fait, compte de solidarité récapitulée dans la responsabilité. Nous reviendrons d'ailleurs certainement sur ce point. Alors, s'il n'y a pas de questions là-dessus, je serai rapidement, mais parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir, voilà ce qui apparaît. Donc, c'est que l'objet de la faute du Vaudor, c'était de remplacer Moïse. Judas Lévi, dans le Kuzari, va mettre l'accent sur un grand chidouche de Judas Lévi, dans le Kuzari, va mettre l'accent sur un aspect de l'explication que je vais essayer de dire maintenant très rapidement, en disant ceci. Leur intention n'était pas de remplacer Dieu, mais de symboliser la révélation qu'ils ont reçue de Dieu grâce à Moïse. Et en fin de compte, nous revenons à l'explication précédente, le piège c'était de diviniser Moïse, parce que pour être le véhicule grâce à qui cette révélation est possible, c'est pas n'importe qui. Mais la tentation païenne de la divinisation du médiateur. Et je crois que le peuple d'Israël, en fin de compte, fait la preuve qu'il est pur de cette tentation-là. Quiconque est tenté de cela quitte Israël. C'est comme ça que le christianisme a quitté Israël d'ailleurs. Je veux dire que vous ne trouvez aucune allusion, aucune trace, rien d'un culte à Moïse. Et en vous le disant, je m'aperçois à quel point c'est aberrant, tellement pour la mentalité juive minimum, ça va de soi, au risque de risquer une ingratitude vis-à-vis de Moïse. Étant donné sa valeur, on pouvait s'attendre à ce que la liturgie fasse une place quand même particulière à la commémoration de son anniversaire. Choum, cloum, rien. Sinon, une nuit d'études consacrée à Moïse. La Hiloula de Rabbi Shimon, c'est une plus grande fête que le Sept Adar. Probablement pour certains d'entre nous, c'était inconnu, cette date du Sept Adar. Je veux dire, j'insiste là-dessus, c'est le mérite du peuple d'Israël de s'être gardé totalement de ce risque de divinisation de Moïse. S'il s'agissait de notre peuple, Moïse serait la plus grande idole de tout le temps. Vous savez ce que les goïms font de leur médiateur quand ils les divinisent. Hein? Alors imaginez ce qu'ils auraient fait de Moïse. Au point que la sagesse de Dieu, si j'ose dire, c'est un attribut négatif, a décidé qu'on ne sache même pas où il est enterré pour ne pas risquer un Saint-Sépulcre supplémentaire.
Est-ce que
c'est
la question
pour
voir exactement quelles étaient les intentions
de
Moïse quand il a fait sortir de l'Égypte?
On y arrive. J'ai posé la question tout à l'heure en disant qu'il y a une réponse, mais je ne l'ai pas encore donnée. On y arrive. Alors, prenez à partir du verset 7. Vaïdaber Hachem El Moshe. Et là, je regrette de ne pas avoir tout le temps qu'il faudrait pour que nous étudions attentivement chaque mot. Mais enfin, faites-le par vous-même d'autre part. Alors, suivez avec moi à partir du verset 7. Vaïdaber Hachem El Moshe. Et Dieu parla à Moïse, sous-entendu en lui disant: L'air Reb va descendre, qui Shifet Amecha, car ton peuple s'est mal conduit. Littéralement, Shifet, ça veut dire a détruit son chemin. Shifet Darko. Ton peuple s'est corrompu. Ton peuple s'est mal conduit. Quoi, ton peuple a chéré l'État Meret Israël, que tu as fait monter du pays d'Égypte. D'après ce que nous savons déjà, puisque l'expression dit que tu as fait monter du pays d'Égypte, il s'agit du Erevav. Vous allez avoir tout de suite, on revient sur ce texte, la confirmation par un autre verset. Prenez au moment de la première prière de Moïse, le verset 11. Prenez le verset 11, du Yudalef. Après, on reviendra sur la fin de ce que Dieu dit à Moïse. Vaïchal Moshe Pena Hashem Elokav, Yudalef. Et Moïse pria la face de Hashem, à la face de Hashem son Dieu. Vaïomere, il dit Lama Hashem Yehere Apecha. Pourquoi, Dieu, ta colère s'enflammerait-elle, Be'amecha, contre ton peuple, Asherotzeta Ameret Israël, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, déjà, la dialectique qui se met en place. Hein? Quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, ton peuple, à toi Moïse. Et il s'agit du Erevav. Et quand Moïse intercède dans cette première prière, il dit, ton peuple, à toi Dieu, il s'agit d'Israël. L'argument de la prière, ici, c'est, pour sauver ton peuple, sauve aussi cela. On commence à s'approcher de ta question. Okay? Vous suivez? Mais on verra ça plus en détail. C'est un midrash qui explique ça de façon très jolie. Très jolie, c'est un peu diminutif pour un midrash, mais en plus joli. C'est un peu le dialogue entre un père et une mère, quand l'enfant a fait quelque chose de mal. Alors le père dit à la mère, tu as vu ce que ton fils a fait? Et la mère répond au père, pardonne à ton fils. Alors je reprends le texte. Voilà, verset 7. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Et l'Eret va descendre, qui s'est fait Amecha, car ton peuple s'est corrompu, ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Alors prenons tout de suite Rashi, et nous aurons la clé. À travers les Midrashim, que dit Rashi? Rashi sur ce verset, qui s'y fait Amcha. Vous l'avez trouvé? J'essaie de vous montrer où c'est. C'est la page 181, et vous l'avez. À la cinquième ligne? Non? Ah oui, oui. Vous l'avez là, au milieu de la cinquième ligne, en bas, en Rashi. Okay. Alors voilà ce que cite Rashi. Qui s'y fait Amcha, car ton peuple s'est mal conduit. S'y fait Aram l'Onema. Le peuple s'est pas conduit, ce n'est pas ça qui a été dit. Le texte n'a pas dit le peuple, Aram, mais ton peuple. Et là, Amcha, mais ton peuple, elle est brave. Et les Vav, ça veut dire ce grand mélange, cette grande foule qui est sortie d'Égypte en même temps que les tribus d'Israël, chez Kibalta Me'atzmecha, que tu as accepté, pas de toi-même, que tu as reçu de toi-même, des Guiarté, mais tu les as convertis, il faudrait dire naturalisés, Velonimartabi, qui n'a pas pris conseil de moi, Velamarta, et tu as dit, Tov, c'est un bien, chez Ilveku Gerim Bashrina, que des étrangers s'attachent à la Shrina, donc se convertissent, si vous voulez, Hem Shirtuvi Shritu, c'est eux qui ont fauté et qui ont fait fauter. Et dans l'explication que nous donne Rashi, nous avons déjà la réponse. Dieu sait pourquoi Moïse a fait cela. Parce que c'est un bien que des guérims s'attachent à la Shrina. Première réponse. La difficulté, c'était le piège que j'ai signalé tout à l'heure. C'était fait avec précipitation. Mais toute la sortie d'Égypte était avec précipitation. Nous verrons plus loin dans le verset qui suit un raisonnement plus précis qui apparaît de ce que Moïse répond à Dieu dans l'intercession de sa prière. Mais déjà, je voudrais donner une première approximation de réponse. C'est qu'il y avait un projet de tout cet exil d'Égypte. Vous vous rappelez ce qu'a insisté aussi de votre précédente, comment Dieu explique à Moïse qu'il faut avoir patience. Lorsque Moïse est pris d'impatience dans l'accélération des persécutions, l'accélération des événements, l'intensification des persécutions qui vient de l'accélération des événements, lorsque Dieu, au début de la paracha de Bo, au début du livre de Shmuel, lorsque Dieu dit à Moïse, ce que vous deviez faire en Égypte n'a pas été fait, il ne faut pas que cet exil ait eu lieu pour rien, et par conséquent, il faut que moi j'intervienne. C'est Dieu qui parle, moi j'interviens pour faire que mon nom soit reconnu par l'Égypte. Vous vous rappelez de cela? Si l'objectif des plaies était uniquement de contraindre le pharaon à laisser sortir les Hébreux, une plaie aurait suffi, la dernière, la plus terrible, celle qui a d'ailleurs emporté la décision. Mais ce texte de la paracha de Bo dévoile qu'il y avait une autre préoccupation. C'est qu'il ne fallait pas que le passage des Hébreux en Égypte n'ait pas d'objet. Alors ça, Moïse l'a très bien compris. Je dirais, le passage des Hébreux en Égypte, là je vais peut-être interpréter à la manière de la Kabbalah ce thème, avait pour objet de ramener en Israël toutes les âmes d'Israël qui étaient restées en dehors à la suite des péripéties de l'histoire. Je veux dire quel est le thème. C'est un enseignement du Hari qui dit ceci. La lumière qui a été donnée au monde était trop forte pour que le véhicule qui devait la recevoir puisse la supporter. Et donc, énormément, une infinité d'étincelles de lumière qui devraient être dans le véhicule d'Israël sont tombées en dehors. Et Harry ajoute dans un autre chapitre, en se rattachant à ce premier thème, et une des fonctions de l'exil, c'est d'aller là où ces étincelles de sainteté, enfouies dans la clipa, dans la gangue de l'impureté, sont tombées pour les sauver, les délivrer et les ramener dans le foyer de la lumière centrale. Vous avez compris cette image? Je dis bien, ce n'est pas l'objectif de l'exil. Ça, on peut faire sans être en exil. Hein. Mais si déjà on est en exil, alors une des fonctions de l'exil, c'est cela. C'est éveiller ces âmes perdues, enfin enfouies dans l'extérieur et les ramener à l'intérieur. Et bon, c'est comme Moïse, c'est très bien cela. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Seulement, vous voyez, la précipitation de l'événement fait que ces deux principes que j'ai invoqués tout à l'heure sont dans une situation de contradiction. Il faut le faire, mais c'était trop vite, mais il faut le faire quand même. Alors bien que ce soit trop vite, Moïse a décidé qu'on va le faire quand même. C'est-à-dire, ce que Dieu ne peut pas décider, Moïse peut le décider. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Moïse, descendant de la montagne, voit la scène du Vaudor, il brise les tables de la loi. C'est-à-dire, lorsque Dieu ensuite va pardonner, enfin suspendre le châtiment et redonner les tables de la loi, le verset dit « Et tu inscriras sur ces deuxièmes tables les paroles que tu avais inscrites sur les premières tables que tu as brisées. À la luchot asher shibarta, que tu as brisées. » Le Midrash intervient et dit, ça veut dire « Il y a asher kohacha shibarta, que tu as bien fait de briser. » Vous vous rappelez de cela? Bon. Pourquoi le Midrash explique ce qu'il a expliqué, ensuite nous verrons le contenu, c'est parce que l'expression « les tables que tu as brisées », l'expression « que tu as brisées » est de trop. On sait très bien que les premières tables étaient celles que Moïse a brisées. Donc, c'est que cette expression est venue « l'Eidaresh » pour vous enseigner un ridouche, pour vous enseigner quelque chose de plus, un Midrash. Lequel? C'est que Dieu dit, il faut remettre cet aramim, l'accent, « les tables que tu as brisées », avec un air de dire que tu as bien fait de briser. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu attendait que Moïse brise les tables de la loi. Pourquoi? Parce que cette faute du Vaudor, elle est faute par rapport à la loi. Mais si on met provisoirement la loi entre parenthèses, c'est plus une faute et le peuple est sauvé. Mais Dieu ne peut pas briser les tables de la loi, parce qu'il est la vérité. Alors il attend que Moïse le fasse. Et dès que Moïse le fait, il dit, mais moi je ne l'ai pas fait. c'est à peu près analogue ici. Quelle était l'analogie, rappelez-moi, sur quel point nous étions? Ah oui, sur le fait que l'intégration, si j'ose dire, de ces guérines de Moïse, fallait le faire. Sinon, toute l'histoire d'Égypte aurait été à refaire. On a laissé ce qu'il fallait aller délivrer. C'est Moïse qui intervient pour le délivrer d'un coup. Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est pas du tout contradictoire avec ce que Dieu lui dit dans ce Midrash. Tu l'as fait sans demander conseil, c'est-à-dire que tu as bien fait de ne pas demander conseil. Si tu m'avais demandé conseil, je t'aurais dit non, alors tu as bien fait de le faire. Vous avez compris la dialectique qu'il y a là? Je ne crois pas avoir trop forcé la lettre du texte, mais c'est pour faire passer la signification. Ça va jusque-là? Bon. Et alors nous allons voir cette confirmation tout de suite dans la prière de Moïse. Vous allez reprendre maintenant de nouveau le verset 11. Et Moïse, vous êtes au verset 11, et Moïse pria la face de Hachem, son Dieu. Et à quelle heure nous avons commencé, si vous avez dit? Bon, d'accord. Et Moïse pria la face de Hachem, son Dieu, et il dit, va yomer, lama Hachem, pourquoi Hachem, yéféré à Pecha, ta colère s'enflammerait, de Amecha contre ton peuple, c'est-à-dire Israël. C'est clair maintenant. Hein? Ça veut dire, si tu détruis le Erevav, c'est mauvais pour Israël. Ça veut dire qu'Israël devra retomber dans un exil pour reprendre ces valeurs que les guérilles ont apportées avec eux. Ces valeurs, on l'a étudié dans la Parasha de Truma, sont périlleuses, dangereuses, mais elles sont indispensables pour l'achèvement de l'histoire d'Israël. Ça peut être dit de différentes manières, mais j'espère que l'idée est claire. Parce qu'elles arrivent en Israël avec une gangue d'impureté. Et donc, il faut le temps de désintoxiquer cela, je ne sais pas comment dire, de cachériser cela. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, il faut passer à l'eau de sel. Il faut tellement ici. Peut-être. Et en quoi précisément, nous allons voir tout de suite. Pourquoi ta colère s'enflammerait contre ton peuple que tu as fait sortir, et là il s'agit d'Israël, c'est bien clair, du pays d'Égypte, des Koargado via Trazaka, avec une grande force et une main forte, la Mayomrum Israël Lemo, pourquoi les Égyptiens diraient ainsi, et pourquoi l'Égypte dirait ainsi, Beraou, Tiam, Lahou, Wotam, Beharim, il les a fait sortir sous un signe maléfique pour les détruire dans les montagnes, parce que si tu détruis ce peuple dans les montagnes, tu sais, les montagnes du Sinaï, juste après, ça veut dire que l'histoire aurait retenu cela. Dieu a fait sortir les Hébreux d'Égypte, mais pour les détruire dans le Sinaï. Nous a fait sortir. De dessus la face de la terre. Reviens de ta colère. Littéralement, Hinachem, ça veut dire reprends ta décision. On traduit dans le dictionnaire l'idée de regret. Mais ce terme de regret est trop anthropomorphique en parlant de Dieu. Hinachem, reprends ta décision. Je préférais, mais c'est du drash, me rattacher à la racine de Nehama et compassion, à la Ra'a et à la Mecha. On traduit habituellement, mais reprends ta décision du mal, de la sanction que tu devais faire à ton peuple. Et nous allons voir que la lecture directe est bien plus précise que cela. Regardez bien. Et vous allez suivre ceux en tout cas qui connaissent cet aramim, c'est-à-dire l'accentuation du texte, vous allez voir que le sens est un peu différent. Prenez les trois derniers mots du verset. Ve'inachem al-ra'a, c'est une unité de lecture, et reprends ta décision de punir, le'amecha en faveur de ton peuple. Et non pas ve'inachem al-ra'a le'amecha. Vous avez compris la différence? Et reprends ta décision du mal que tu devais faire à ton peuple. C'est pas du tout ça qui est écrit en hébreu. Regardez bien les aramim. Ve'inachem al-ra'a, et reprends la décision mauvaise, le'amecha en faveur de ton peuple. Ça va jusque-là? Nous allons avoir confirmation dans un autre verset. Et je reviens à cela. Et prenez le verset 14. Un autre verset encore plus explicite, d'après les Tahamim. Prenez le verset 14, Yud-Dalet. Lorsque Dieu accepte la prière de Moïse, alors le verset dit ceci, Vaïnachem Hachem, et Dieu reprit sa décision, Alara, au sujet du mal, de ce malheur, Hacher Liber, dont il avait parlé, la Asot le Hamo, pour agir en faveur de son peuple. Et non pas, ce que vous trouvez dans la tradition française, qu'il avait parlé de faire contre son peuple. Vous voyez à quel point c'est différent comme tradition, c'est clair? Alors, je vais vous dire le nom des Tahamim, je vais vous dire en prononciation sfarade, c'est la seule qui me revient, les Ashkenazim ont des noms un peu différents, mais ça revient au même. Prenez d'abord le verset 13, la fin du verset 13, vous avez sous Ve'inachem al-ra'a, Marich Taha, l'unité de lecture. Okay. Comment dit-on chez les Ashkenazis? Quel est ce sinon? Nordique. bon, rappelez-moi la prochaine fois de vous dire comment ça se dit. Ça se dit Merhat Tipha. Moi, je suis calé. Okay. En tout cas, chez les Ashkenazis, on appelle ça Marich Taha. C'est deux accents là. Ve'inachem al-ra'a, une unité lecture, le'amecha, en faveur de ton peuple, sauf pas tout. Sinon, il y aurait une toute autre accentuation, il y aurait ve'inachem al-ra'a, le'amecha. C'est vrai? Pour le verset 14, c'est la même chose. Vous avez ve'inachem Hashem al-ra'a, et ensuite, asher libe, marir tarcha, la rassot le hameau, marir sotasot. Vous voyez donc que la lecture de la Massoret nous montre bien que le sens de la phrase est très différent. Alors, je reprends maintenant un verset précédent. C'est le verset 13, du plaidoyer de Moïse pour Israël. Vous rappelez de l'argumentation de la prière. Si tu détruis le Hérav, c'est un malheur pour ton peuple. C'est bien clair jusque-là? Alors, sauve-les pour sauver ton peuple. Et donc la première prière de Moïse, c'est le premier point que je vais mettre en évidence, la première prière de Moïse, c'est de prier pour Israël, qui n'a pas participé au veau d'or, mais qui n'a pas pu l'empêcher. C'est clair jusque-là? La deuxième prière, vous le devinez, ça sera pour le Hérav lui-même. C'est clair? Maintenant. Alors prenez le verset 13. Voilà comment Moïse plaide. Zecho, souviens-toi, les Abraham, les Yitzhak, les Israël, Avadecha. Souviens-toi d'Abraham, de Yitzhak et d'Israël, tes serviteurs. Hacher Ishbartalaël, que tu leur as juré, bar en ton nom, au nom de toi-même, Batedaber Alehem, et tu leur as parlé en leur disant, Arbe et Zarachem, je multiplierai votre postérité, Kechokh Be'Hashamaim, comme les étoiles du ciel, et toute cette terre, Asher Amarti, que j'ai dit, Eten les Arachem, je donnerai à votre postérité, Venachalou les Rolam, ils mériteront à jamais. Et si tu détruis ce peuple, comment s'accompliraient ces promesses que tu as faites à leurs ancêtres? C'est clair jusque-là? Bon. Ça veut dire, pour que cette promesse s'accomplisse, il faut donc que le Erevav s'introduise en Israël. Je reprends le thème tout à l'heure que j'ai cité au nom du Hari. Tout se passe comme si, au moment de la constitution d'Israël, une quantité de l'être d'Israël est restée à l'extérieur. Et une des fonctions de l'exil est de restaurer cette complétude, cette plénitude, cette unité, cette entité d'Israël. Ceci est un thème que nous apprenons d'autre part. Si vous voulez, peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine, parce qu'il faut au moins autant de temps. C'est le thème que j'ai l'habitude d'appeler le thème de la 13e tribu. C'est-à-dire, vous savez que Jacob a eu 12 enfants, fondateurs de tribus, et une fille. Et par conséquent, il faut chercher quelque part le fondateur de la 13e tribu qui achèverait l'unité d'Israël et en même temps la relierait à l'unité du genre humain tout entier. Et nous avons des textes très clairs dans la Torah qui nous parlent de ça. La première stratégie de Jacob pour fonder la 13e tribu, et vous savez pourquoi il en faut 13 et pas seulement 12, puisque l'unité a 13 dimensions. C'est à un autre niveau, la valeur numérique du mot Echad, c'est 13. Et donc tout se passe comme s'il y a une porte ouverte dans l'unité d'Israël, au niveau 12, Had, mais pas Echad, qui est cette porte par laquelle, en même temps que s'achève l'identité d'Israël, s'achève l'identité des nations reliées à Israël. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est-à-dire que c'est le thème de la messianité universelle. Le Messie d'Israël est le Messie pour l'humanité entière. Et donc, c'est cette entité de la 13e tribu qui est en question. Vous avez déjà compris que c'est la porte par laquelle le Erevav entre pour fermer la porte. Et la première stratégie de Jacob, c'était Shrem. Vous vous rappelez de cet épisode? Pour marier Dina, il a rencontré Shrem. Et il croyait que c'était possible, c'était un échec. Alors en fin de compte, il y a une deuxième stratégie avant sa mort, c'est de diviser la tribu de Joseph en deux, Ménaché et Ephraïm, ça fait 13 tribus. Mais après la faute du veau d'or, la tribu de Lévi se retire du compte des 13. Il n'en reste plus que 12. Et donc vous voyez, c'est encore en suspens. C'est clair ce que je veux dire. Alors c'est là, dans ce principe-là, que s'introduit l'argumentation de Moïse. Pour que la promesse à Israël s'accomplisse, il faut que le Erevav entre en Israël. Alors vous complétez par cela, si vous voulez, l'enseignement du Hari, qui est une portée beaucoup plus métaphysique profonde. Dès l'origine de la constitution d'Israël, quelque chose est resté à l'extérieur. Et par conséquent, pour le bien et de l'extérieur et de l'intérieur, il faut que le tri se fasse. C'est bien clair? Alors Moïse prie par le temps, accélération des événements, en vrac, à intégrer le Erevav, en faisant confiance à l'histoire future que l'épuration se fasse. Et on a mis 4000 ans pour que cette épuration se fasse. Au bout de ces 4000 ans, on arrive délivré, purifié de cette tentation de divinisation de Moïse. Comme je dis souvent à propos des événements que nous vivons, et vous voyez qu'il y a un abcès qui est sorti, un abcès de fixation qui est vraiment la fondation du christianisme. Okay? Tous ceux qui étaient comme ça sont partis là-bas. Vous avez compris ce que je dis? C'est bien clair. Et comme je dis souvent à propos des événements contemporains, quand nous avons pris le Kotel, Jérusalem, eh bien, ne s'est pas passé grâce à Dieu un événement pareil. Que quelqu'un soit venu monter sur un âne blanc habillé en rouge, lancer l'inverse, monter sur un âne rouge habillé en blanc en disant c'est moi. Il y aurait eu une émeute. 2000 ans d'église encore. Ça veut dire retourne à l'hôpital. On a mis 2000 ans pour ça, sans doute, mais en tout cas ça réussit. Moshe Dayan aurait très bien pu dire, vous savez, je m'appelle Moshe Dayan. Voilà, c'est une espèce de stage de purification dans l'Église. Tous ceux qui étaient tentés par cela, eh bien, sont partis là où ils sont partis. Mais vous voyez que dès l'origine, il y a cette dimension-là de piège, de tentation, de risque, de la divinisation de Moïse. Je pense que c'est suffisamment clair. C'est le contraste qu'il peut y avoir entre la piété chrétienne et la piété juive à ce niveau. C'est exactement la différence entre le paganisme et le judaïsme. Je pense que c'est ça. Pourquoi lorsque nous discutons par exemple avec les protestants, qui sont très fiers de nous dire « Ah, chez nous, il n'y a pas d'image hein, dans leur temple », alors c'est très simple, il y en a une, ça suffit. C'est de celle-là qu'il s'agit. Les autres, c'est des sous-images. Ça veut dire que ça revient au même. Finalement, même si c'est une image mentale, servir. Je crois énormément, enfin énormément, quelques-uns déjà, c'est énorme par rapport à rien qu'il y avait avant, de livres paraissent en milieu chrétien qui redécouvrent cela, qui mettent en question cette nature païenne de la divinisation du médiateur. Et alors finalement, ils sont pris de panique, parce que si on dédivinise, ils restent rien dans leur histoire. Je vous ai compris. Ken ? J'ai indiqué ça tout à l'heure. Vous avez remarqué ? Quand j'ai parlé du nationalisme chauviniste qui remplacerait le Magen David, vous vous rappelez ? Bon. Alors je dois vous dire que le peuple juif est vraiment vacciné à ce niveau-là. Quelles que soient les tentatives de tentation, les tentations de tentatives à ce niveau-là, ça tourne court. Il y a eu un mouvement qui, sous forme très très laïcisée, à outrance, a tenté cela, ce mouvement qu'on appelle le mouvement des Cananéens. Rappelez-vous cela ? Et puis finalement, je ne vais pas être injuste vis-à-vis du mouvement des Cananéens, qui est un mouvement qui contient énormément de valeurs hébraïques. Mais il y avait ce piège formel en tout cas. Peut-être qu'un jour on consacrera une séance à cette mise au point. J'ai trouvé dans l'enseignement du Rav Kook énormément de convergences avec le contenu des discours des chefs du mouvement cananéen, avec la grande différence, c'est qu'il s'appelle cananéen alors qu'il devrait s'appeler hébreu, mais cette erreur est significative. Et autrement, c'est Torah Tarab, c'est la Torah du Rav Kook. Ça veut dire que le juif doit redevenir hébreu. Redevenant hébreu, il est pris de vertige par l'idée de la nation hébraïque et qu'il érige en substitut de la Torah. Vous voyez à peu près mais sachez bien que de tous ces risques-là, les juifs sont vaccinés. Tout peut arriver, même à la bourse, mais pas ces choses-là. Ça veut dire qu'on a mis le temps pour se désintoxiquer de cela, mais finalement, on y est allé. Ça va jusque-là ? Bon, je crois que je vous ai dit l'essentiel, parce que j'ai plus de temps. En réalité, je vous ai dit qu'une partie de ce qu'il faut lire, mais je vous donne les repères. Nous avons deux prières. La première, sauve Israël, pour sauver Israël, pardonnerai les blâmes. La deuxième, maintenant que Dieu a suspendu la sanction, le Révab rentre en Israël. Alors, sa faute se dévoile. Tant qu'il n'était pas en Israël, il n'était pas jugeable, comment on peut dire ça en français ? Il n'était pas justiciable de la loi. Et donc, maintenant que Dieu a accepté les intégrés en Israël, c'est-à-dire qu'il a fait comprendre à Moïse que Moïse avait raison de faire ce qu'il a fait sans prendre conseil, parce qu'il avait pris conseil, il aurait dit non. Vous avez compris le problème ? Et comme il savait très bien que c'est ça qu'il fallait faire, il est pris par le temps. Rappelez-vous la notion de précipitation de la sortie d'Israël. Tout ça, ça s'est fait précipitamment. Alors que de notre temps, comme dit le prophète Isaïe, à la fin des temps, vous aurez le temps. Et regardez à quel point on a le temps. Parce que depuis la fondation du sionisme jusqu'à nous, c'est passé beaucoup de temps. Et pourtant, tout se passe comme si on est encore dans ce fantasme de précipitation et qu'il n'y a pas le temps. Je ne sais pas s'il était suffisamment clair. La sortie d'Égypte, c'est vraiment le chrypazone absolu, la précipitation absolue. Et là, Dieu nous a donné tout le temps qu'il faut. Et malgré tout, on se presse lentement, comme on dit. Et on se prépare à Sion. On se prépare. Et là. C'est de la nature du temps qu'il y a de moins en moins de temps. Ça, c'est évident. Dans le problème. La deuxième prière sera donc pour pardonner au révérend lui-même. Et c'est là que Dieu dit à Moïse, bien, cette faute va être suspendue pour le révérend, mais il sera mis à l'épreuve. Le peuple sera mis à l'épreuve. Là, il y aura un tout autre thème que je n'ai pas le temps d'aborder, parce que je vais quand même très brièvement parler du Seth Adar, et c'est ceci. C'est que c'est à ce propos que l'expression « Am Kesher Oref » de peuple à la nuque raide est employée. Or, vous avez vous-même fait. Maintenant, vous avez suffisamment d'indications. L'expression « Am Kesher Oref » concerne pas Israël, d'abord, mais le Hébreu. C'est clair jusque-là ? Et c'est encore une calomnie de nommer Israël le peuple à la nuque raide. Et la signification de l'expression, on le verra en particulier. Dans Rashi, c'est « rebelle repenti ». Et parce que le Midrash peut... La question comme cela, pourquoi Dieu tout de suite dit « je vais le détruire » ? Est-ce qu'il n'y a pas la clause du repenti ? C'est pourquoi Dieu explique à Moïse en disant « j'ai vu ce peuple, je l'ai jugé, c'est « Veine am keshe orefou » et il s'agit de Eleva dans ce premier texte. « Je l'ai jugé ce peuple et voilà c'est un peuple à la nuque raide » et ça veut dire « incapable de se repentir ». C'est pourquoi, alors que c'est étonnant, le texte ne tient pas compte de la clause possible du repenti. ça devrait faire l'objet de toute une étude. Mais rappelez-moi cela, si vous voulez, pour la prochaine fois, dans 15 jours. Et nous étudierons cela. Et plus en détail, on reviendra sur ces textes, à propos d'ailleurs de la paracha de Vayakhel, qui sera celle de dans 15 jours. Mais lorsque le peuple est intégré à Israël, alors cette mida, cette dimension de Am Kesherev entre en Israël. Donc ce n'est qu'à posteriori, il y a d'une certaine manière une générosité de l'Israël hébreu à prendre sur lui ce qui s'est passé à l'extérieur de lui pour l'intégrer dans l'histoire de son salut. C'est clair ? C'est-à-dire que l'Israël hébreu a accepté de risquer de devenir Am Kesherev pour pouvoir intégrer la Eleva. C'est clair jusque-là ? Alors, maintenant, il est évident que nous ne disposons plus des critères de diagnostic. Quand vous voyez un juif entêté, ça ne veut pas dire qu'il vient du Hélène, forcément. Puisque finalement, l'intégration est faite. Bien, je m'aperçois qu'il reste plus de temps, alors je vous dis vraiment deux phrases au sujet du Saint-Hadar et comment ça se relie à Purim. C'est lorsque Aman a jeté le sort pour décider de quel jour. Quel jour il choisirait pour détruire le peuple juif en Perse. Alors finalement, chaque fois que l'été tombait sur un mois, il y avait le mérite d'un événement de l'histoire d'Israël, sur un jour de la semaine, etc. En fin de compte, il est tombé sur un mois ambigu. Vous savez que Hadar, ça peut être Véhadar, le 12-13, 12e mois, 13e mois. Elle est tombée dans le mois de Hadar, et le Midrashi a été très content, parce qu'il savait que dans le mois de Hadar, c'était le mois où Moïse était mort. Et un Israël sans Moïse est très vulnérable, alors il attendait le défaut de la cuirasse au moment où Israël n'a plus de Moïse, ça veut dire n'a plus de relation à la Torah. Pourquoi on commence d'abord par essayer de les assimiler, et quand ils sont vulnérables parce qu'assimilés, alors on essaye de les détruire. Vous comprenez la stratégie, hein? Et alors voilà, c'est sa stratégie. Dans le temps symbolique, du moment où Moïse n'est plus là, qu'Israël est vulnérable. Et le Midrash dit, il savait que Moïse était mort le Saint-Hadar, mais il ne savait pas que Moïse était né le Saint-Hadar aussi. Et par conséquent, son calcul a été vain. Malgré les apparences, Israël reste relié à Moïse. On croit que Moïse est mort, mais Moïse vient de naître. Vous comprenez le problème. Et alors, le Maharal, dans son livre qui consacre à Purim, et qui s'appelle Or Hadash, comme vous voyez là-haut, et au Hadash, toute l'atmosphère de Purim, c'est une atmosphère de lumière, au Rav Simcha. Alors, le Midrash pose la question, comment il savait que Moïse était mort le Saint-Hadar, il ne sait pas qu'il est né le Saint-Hadar. Alors, l'explication du Maharal est très profonde. Il a cru que l'histoire qui concerne Israël a les mêmes rites que l'histoire des nations. C'est-à-dire, il y a un commencement, et puis une apogée, mais il y a une fin, et la fin, c'est la fin. Il ne savait pas qu'il y a une dimension d'éternité en Israël. Et que ce qu'il a pris pour la fin, ce n'était pas autre chose que le début du commencement. Vous avez compris le piège. Et c'est comme ça qu'il a été pris au piège. Ça veut dire que le nom de Moïse n'apparaît pas dans la paracha de Tetzavé, mais on ne parle que de lui. Donc alors je vous souhaite bon Purim. Alors on a rendez-vous pour la lecture de la Megillah, jeudi soir prochain à 6h à Yaïch.